jeudi 17 novembre 2016. Alors, 17 novembre, c'est quoi pour vous? Eh bien, c'est le troisième jeudi du mois. Et alors, il se passe quoi le troisième jeudi du mois? Eh bien, c'est l'émission hébergée par Radio Audio avec le Grémos. Grémos, le groupe de recherche sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Et ben, aujourd'hui, c'est encore une partie de l'équipe qui est avec vous, avec
Jean-Paul Vintière,
et puis Maurice Bedouin, et puis savez-vous qui est derrière le pupitre? Eh bien, c'est toujours l'inusable Lionel. Alors, Jean-Paul.
Alors, merci Lionel d'abord. Et puis, Maurice, aujourd'hui, tu as choisi comme thème les grèves du retour à la paix 1919-1920 dans la région stéphanoise. Alors, la question tout de suite, c'est pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui?
Oh, première idée, c'est une façon de nous rattacher aux célébrations du centenaire de la Grande Guerre et à ses suites, hein, puisque là, on est plutôt dans les suites. C'est aussi quand même mettre l'accent sur des événements qui sont mal connus et qui ont eu une grande importance dans notre région. En 1920, la région a connu les premières luttes sociales modernes, et je peux dire que par leur ampleur, ces luttes préfigurent celles qu'on a plus en mémoire, c'est-à-dire 1936, 1947, 1948, 1963 et puis 1968. Et puis, bien sûr, hein, il faut y venir, c'est une manière d'annoncer les quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière du Grémos, qui ne sont pas encore tout de suite là, qui vont se dérouler du 20 au 21 janvier 2017, et dont le titre est « Travail et mouvement ouvrier à l'épreuve des guerres, le bassin stéphanois de 1910 à 1925 ».
Voilà, alors, par rapport à ce que tu disais de l'ampleur de ces mouvements au sortir de la Grande Guerre, il y a peut-être quelque chose de paradoxal, parce que peut-être qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'Union sacrée qui avait prévalu pendant la guerre se continue après la guerre, au moins pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce déclenchement de ces grèves?
C'est peut-être la guerre, la paix armée, mais ce n'est pas du tout la paix sociale. Rends-toi compte, le nombre de jours chômés en 1919 en France correspond à 2206 grèves, et ça a mis en cause 1 160 000 grévistes. Alors, bien entendu que nous allons surtout parler du bassin stéphanois, et bien chez les mineurs du bassin de la Loire, il y a eu 33 jours de grève en 1919 et 27 jours en 1920. Alors, loin de moi de vouloir énumérer toutes les grèves, ça serait parfaitement inutile, mais peut-être qu'il serait intéressant de faire une espèce de typologie de ces grèves, et finalement, cette typologie est extrêmement révélatrice. Alors, évidemment, en premier, c'est banal, il y a toutes les grèves traditionnelles de courte durée qui mettent en jeu quelques dizaines de grévistes à l'usine entière, mais qui sont de courte durée, et qui sont, dont le mobile, ce sont des raisons internes, c'est-à-dire la mise à pied d'un ouvrier, un problème de salaire, un problème d'horaire, ou des brimades qui sont exercées par un petit chef. Donc on est d'accord. Ça, c'est classique. Et puis, s'y ajoutent les journées chômées du 1er mai. Et celles de 1919 et 1920, on va le voir, ont été particulièrement importantes, puisqu'elles ont rassemblé l'ensemble des professions, et elles ont donné lieu à des défilés absolument gigantesques avec des mots d'ordre commun. Et ces 1er mai, on le sait tous, sont destinés à faire peur au gouvernement et aux patrons en leur disant ben, attendez, ça ce n'est qu'un début, vous allez voir, nous sommes capables de mener des grèves longues. Et puis nous avons, ça c'est classique aussi, des grèves de type corporatif qui mettent en jeu ben, les gros bataillons de mineurs, les gros bataillons de métallos, mais de façon séparée, qui dure quelques jours à plusieurs semaines, et qui amène alors des sanglantes répliques des patrons qui vont jusqu'au lock-out. Et puis, nous trouvons des grèves qui commencent, alors cette fois, à l'initiative de la corporation, et qui est ensuite, parce que les mineurs ont démarré, essayent d'emmener avec eux les autres corporations en vue d'une grève générale. Alors, c'est en particulier ce qui s'est passé dans la grande grève de mai 1920, qui a été commencée à l'initiative des cheminots. Et puis enfin, il y a les grèves, évidemment, qui s'insèrent dans un mouvement national dont l'initiative, puis l'arrêt, hein, les deux, et le début et la fin, appartient aux états-majors parisiens. Et c'est évidemment le cas de la grande grève des mineurs de mai-juin 1919.
D'accord. Donc il y a un déferlement de grève, contrairement à la question un peu naïve que je t'avais posée précédemment. Et alors, ces grèves, est-ce qu'on peut dire que ce sont des grèves politiques ?
Bon, alors replaçons-nous dans le contexte politique de l'époque. Il y a eu la victoire du Bloc national aux élections législatives de 1919, ce qui fait que désormais les socialistes sont dans l'opposition.
Le Bloc national, c'est, en gros, c'est la droite.
C'est ça. C'est une coalition des forces de droite, de ceux qui veulent montrer que la France vainqueur sera une France éternelle. Hein ? Et n'oublions pas que nous sommes dans un contexte international où la contagion bolchevique se transmet au reste de l'Europe. Et en France, le Bloc national apparaît comme le rempart par rapport à la crise sociale, enfin en tout cas à la demande sociale du monde ouvrier. Et le Bloc national ne se prive pas de surveiller les ouvriers suspects, d'écouter les mots subversifs qui peuvent être lancés ici ou là. Et c'est ainsi que nous voyons concrètement dans la Loire, dans les archives du préfet, le gouvernement et le préfet mener la chasse aux Stéphanois et dire que les grèves qui se réalisent sont des grèves politiques. Et c'est assez vrai parce que les ouvriers de Saint-Étienne, de la région, considèrent que le gouvernement est un allié de la bourgeoisie et du capitalisme et que de leur côté, ils revendiquent des nationalisations comme par exemple celle du chemin de fer. Et si on va jusqu'au bout, beaucoup de ces mouvements, beaucoup de ces grévistes souhaitent la chute du gouvernement pour laisser la place à un gouvernement communiste.
D'accord. Alors en même temps, ils font confiance à quelqu'un qui n'est pas communiste. C'est Antoine Durafour.
Alors dans la Loire, nous sommes dans un contexte différent, puisque lorsqu'il y a eu les élections des députés, et il y a eu trois nouveaux députés élus, qui sont du Bloc républicain et socialiste, et les ouvriers considèrent qu'ils peuvent faire confiance à Antoine Durafour. Sa notoriété est grande, puisque c'est lui qui, comme ministre du Travail, a accordé la journée de travail de 8 heures.
D'accord.
Et que parallèlement, à Saint-Étienne, lorsque la nouvelle équipe municipale s'est mise en place, eh bien, le monde ouvrier a estimé pouvoir faire confiance à cette nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'une municipalité de coalition de gauche qui est dirigée par Louis Soulier,
un radical.
Qui est un radical, et que Saint-Étienne est l'une des grandes villes françaises à compter des élus communistes parmi le conseil municipal, c'est-à-dire Ferdinand Faure et Jacques Le Griel. Voilà. Et les ouvriers sont vraiment persuadés que grâce à ce contexte local, qui est bien particulier, l'action ouvrière devrait triompher, surtout à l'occasion d'un moment, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, le 9 mai 1920, Donc là, on est vraiment dans les grèves rudes de la grève des cheminots de mai 1920, où s'organise un énorme défilé, comme peut-être rarement la région stéphanoise en a eu, le 9 mai 1920, où l'on voit Antoine de Ruffour, le ministre, Louis Soulier, le maire, le conseil municipal, prendre la tête d'un défilé qui part de la Bourse, drapeau rouge en tête, jusqu'au terrain d'aviation de Méon.
Alors, ça veut dire qu'il y a, s'il y a ce mouvement, c'est que les syndicats se sont reconstitués, ont reconstitué leurs forces à ce moment-là, à cette époque-là.
Oui. Et ils ne les ont pas reconstitués seulement à la fin de la guerre. Ce qui est intéressant de bien montrer, c'est que pendant la guerre, ces syndicats se sont reconstitués. Les rapports de police de printemps 1917 disent que, par suite du rappel d'un grand nombre d'ouvriers mineurs, métallurgistes, cheminots, les forces syndicales se sont reconstituées. Alors pourquoi ? Ben tout simplement parce qu'on a besoin, dans la région stéphanoise, qui travaille pour l'armement, de produire. Et par ailleurs, à la même époque, on observe un mouvement d'arrivée sur le bassin stéphanois d'anarchistes et d'antimilitaristes qui viennent de Paris et de sa région. Les milieux policiers le savent et les patrons demandent de fermer la Bourse du Travail parce que, disent-ils, c'est un foyer d'agitation. Mmh. Voilà, donc tu as raison, les syndicats se reconstituent encore plus à la fin de la guerre. Et la CGT devient, en quelque sorte, le syndicat le plus puissant.
Alors, il faut dire qu'à cette époque, elle a peu d'adversaires, parce qu'on peut noter, mais c'est anecdotique, donc, que la CFTC va se créer en tant que confédération les 1er et le 2 novembre 1919, mais sa puissance est sans commune mesure avec celle de la CGT, et en plus, elle est clairement dans l'opposition au communisme à ce moment-là. Alors, est-ce que... Mais par contre, à l'intérieur de la CGT, il y a au moins deux tendances qui s'opposent.
Ah oui, ça, on ne comprendrait pas ce qui se passe à l'époque.
D'accord.
Si l'on ignore les deux tendances qui s'opposent à l'intérieur de la CGT et qui s'opposent dur. Hein. La première tendance est appelée majoritaire. Elle est dirigée par Léon Jouot, qui est secrétaire de la CGT. Elle a défendu l'Union nationale pendant la guerre, donc elle n'est pas blanche hein, de toute suspicion. Et la guerre étant finie, la tendance majoritaire entretient la lutte en menaçant de bloquer le pays par des grèves générales sur la question des salaires, des retraites, de la durée de la journée de travail. Bref, la CGT devient force d'opposition au gouvernement. Mais elle est dépassée par la deuxième tendance, qui est appelée minoritaire, et qui est animée par des militants groupés autour de la vie ouvrière et du combat syndicaliste. Alors, on y trouve, par exemple, Pierre Monat, on y trouve Merheim, le secrétaire de la Fédération des métaux, on y trouve Bourderon. Ils refusent de collaborer avec le pouvoir et veulent exploiter l'esprit révolutionnaire des masses populaires, tout simplement pour prendre le pouvoir. Mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se passe à chaque congrès. Chaque camp cherche à imposer ses conceptions et souhaite compter ses soutiens. On se compte à l'occasion du vote de chaque résolution. Alors, c'est ainsi que c'est intéressant de voir... Les votes au moment du congrès de Lyon en 1919 ou à celui d'Orléans en 1920, où, bien sûr, la tendance majoritaire l'emporte, elle l'emporte avec une proportion des deux tiers. Mmh. Minoritaire est bien le mot.
Mmh, d'accord. Donc à ce moment-là, cette majorité reste majoritaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la Loire ? Comment se répartissent les forces ?
Alors, voilà l'intérêt de parler de la Loire. Tu as raison. La Loire est un fief minoritaire. À la fin de la guerre, le monde syndical s'est reconstitué sur le modèle ancien, celui du 19e, du début du 20e, avec des ouvriers qui ont largement repris la tradition syndicaliste révolutionnaire ou anarcho-syndicaliste. Donc, il se trouve opposé aux réformistes majoritaires de la Confédération CGT de Jouhaud. Il ne se prive pas pour dire qu'il regrette la forme de collaboration avec le gouvernement, qu'il condamne ses hésitations et souhaiterait pousser le syndicat à des actions beaucoup plus radicales. Alors, une petite citation que je trouve très révélatrice. Dans son compte-rendu du congrès de Lyon de 1920, Clovis Andrieux, qui était le délégué des métallos de Firmini, va jusqu'à dire, écoutez bien, l'ancienne CGT et ses mandarins ont fait leur temps, place à d'autres pour la révolution, puisqu'ils ne veulent pas la faire. Tout d'accord. Est dit, là, hein ?
Oui, d'accord. Et alors, pour faire la révolution, il faut pas seulement des révolutionnaires, mais il faut aussi qu'on ait... ici, des ouvriers dans le bassin stéphanois qui soient dans une situation où ils ont envie que les choses changent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des ouvriers du bassin stéphanois à l'époque ?
Ouais. On leur a dit d'aller au front, on leur a dit de combattre. On leur a dit que les lendemains seraient meilleurs. Et puis, tout simplement, ils s'estiment trahis. Le journal du peuple, même si, à mon avis, noircit le tableau à dessin.
Alors, le journal du peuple, c'est quoi ?
C'est un journal des minoritaires.
D'accord.
Insiste sur la rancœur des ouvriers. Il considère que 90% des travailleurs ne peuvent vivre de leur salaire. 90%. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut tenir compte de la dépréciation du franc, il faut tenir compte de l'inflation. Une vie quotidienne où les prix s'accélèrent continuellement et des salaires qui n'ont pas augmenté en proportion. Voilà. En gros, on peut dire que le pouvoir d'achat des ouvriers a baissé de 15% par rapport à ce qu'il était en 1914. C'est énorme. Alors, j'ai recherché pour voir si la mairie de Saint-Étienne, qui a l'oreille des ouvriers, n'a pas fait quelque chose pour les aider. Une petite chose, c'est que il y avait dans les frigos, je ne sais pas si c'est dans les frigos, mais il y avait de la viande frigorifiée, congelée, du stock américain. Et en septembre 1919, ils ont décidé de la distribuer dans les magasins succursales multiples. Ils ne l'ont pas fait avant parce qu'il faisait trop chaud en août. Alors, à tout cela s'ajoute un vrai mécontentement de classe contre les grandes fortunes qui se sont enrichies, ça on le connaît, qui ont profité du malheur du pays. Et dans le Libertaire du 1er juin 1919, le journaliste décèle l'existence d'un état d'esprit révolutionnaire dans les masses. Et cette accumulation de ressentiments font que les ouvriers recueillent, les syndicats recueillent de plus en plus d'adhésions. Et c'est là plus belle période au niveau national de l'histoire de la CGT, qui double ses effectifs en 2 ans, avec 600 000 adhérents en 1918 et 1 100 000 en 1920. 1 100 000.
Et alors, à cette époque-là, tout à l'heure, tu parlais de la contagion... Tu as parlé de la contagion bolchevique tout à l'heure. C'est-à-dire, tu parlais... En gros, la contagion bolchevique, c'est les effets de la révolution d'octobre.
Ouais.
Et puis, cette révolution d'octobre, elle a eu aussi un certain nombre d'effets avec des tentatives révolutionnaires en 1919, en Allemagne, en Allemagne à Berlin et à Munich, et puis en Hongrie avec des tentatives révolutionnaires en 1919. Alors, quelques mots sur ces tentatives révolutionnaires qui ont dû jouer dans le climat révolutionnaire français.
Ben, tout à fait. On sait bien que la presse joue un grand rôle, qu'elle est commentée dans les amicales laïques, et que ces ouvriers sont parfaitement au courant de tous ces mouvements qui, la Russie étant lointaine, deviennent des mouvements européens beaucoup plus proches, avec des gens, les Allemands, on les a connus, mais on pourrait parler aussi de la mutinerie de la Navy en Grande-Bretagne. L'audience de tous ces mouvements chez les minoritaires stéphanois fait que de plus en plus, quand les esprits s'échauffent, on parle du grand soir. Et au fur et à mesure que s'enchaînent les grèves de 1919 et de 1920, ces ouvriers sont convaincus d'une montée pré-révolutionnaire. C'est incontestable.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand ses girons, dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent, alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir, pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit, et plus bas ça glisse un beau matin, ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as des lyogabales, des froids saisis, quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à macar.
Une chanson de Michel Bernard.
Superbe chanson de Michel Bernard à redécouvrir, hein, que pour ma part je ne connaissais pas. Fille d'ouvrier, sur des paroles de Jules Jouy. C'est une chanson qui est déjà ancienne, elle est de la fin du 19e.
D'accord.
Mais tu vois, quand on évoquait tout à l'heure le rôle de la presse, je crois qu'on ne mesure pas aussi le rôle de la chanson. Parce qu'à cette époque, on chantait beaucoup. On ne sait pas toujours ce que les ouvriers chantaient, d'ailleurs, c'est un vrai problème. Mais en tout cas là, on décrit la vie éternelle des ouvrières, ça n'a pas changé, un semé de malheurs depuis l'exploitation dont elles sont victimes à l'usine jusqu'à la déchéance physique. Et puis c'est un véritable appel à la révolte, ouais, contre les patrons.
D'accord. Alors, donc on peut en venir maintenant au déroulement des grèves. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1919 dans la région stéphanoise?
Eh bien, tout a commencé par le 1er mai.
D'accord.
1er mai 1919. Alors, en lire les récits sur les journaux, ça a été une journée grandiose. Chômage total pour toutes les corporations, 7000 personnes à la Bourse du Travail, 10000 personnes en cortège dans les rues, le drapeau rouge partout. Bon, ça a été surtout une journée calme, et ça c'est à signaler parce que à Paris, cette journée du 1er mai a été une journée assez grave avec un décès.
D'accord.
Alors, c'est une journée calme, mais qu'il faut bien replacer dans son contexte. Parce que la journée de travail de 8 heures, accordée par le ministre du Travail, Antoine Durafour, vient d'être votée une semaine auparavant. Donc, bien entendu, il faut le voir comme une décision opportuniste. Le gouvernement avait tellement peur des effets de ce 1er mai qui se sont dit, allez, il n'y a plus besoin d'attendre, il faut que nous accordions cette journée de travail de 8 heures.
Non, parce que c'est une grande victoire, parce que c'est une vieille revendication.
C'est une très grande victoire pour le monde ouvrier, ça faisait 50 ans qu'elle était réclamée, mais ce n'était pas le moment où on s'attendait le plus à ce que le gouvernement cède, parce qu'on a comme l'impression que c'est une victoire qui a été obtenue sans combattre. Alors, c'est absolument génial, mais c'est particulièrement intéressant pour les mineurs. Mmh. Alors, pourquoi ? Parce que les compagnies ont convenu que la journée effective de travail pour les mineurs ne serait que de 6h45, puisqu'à l'intérieur des 8 heures, ils intègrent la descente, le temps de la descente, le temps de la portion et le temps de la remonte. Voilà. Mais en tout cas, pour le monde ouvrier, cette loi de 8 heures, cette journée du 1er mai, c'est un petit peu l'acmé de leur mouvement de l'après-première guerre. Ils sentent que leur rapport de force a changé avec le gouvernement.
Et ils se disent que si le rapport de force a changé, si le gouvernement a lâché là-dessus, il pourrait lâcher sur autre chose.
Et bien sûr, hein, il ne faut pas perdre de vue le contexte social du moment, et puis les privations, et puis les salaires, le pouvoir d'achat qui a baissé. Oui. Hein. Et alors, la première corporation qui se lance dans la grève, ce sont les mineurs. Grève nationale, décidée au Congrès national de Marseille, et une grève extrêmement longue qui a duré du 17 juin au 18 juillet. C'est une grève qui a été conduite dans le calme, je n'ai pas grand-chose à en dire sur Saint-Étienne, mais une grève, alors là, les mineurs, à la fin, ont obtenu gain de cause dans leurs revendications. Hein, on remet le couvert. Ils ont obtenu, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Ils ont obtenu l'augmentation des salaires, la fixation d'un salaire minimum, la révision des retraites, c'est Noël avant l'heure, d'autant que les mineurs, s'ils font le compte, sur les augmentations de salaire depuis octobre 1918, c'est-à-dire en un peu moins d'un an, ont vu leur salaire moyen passer de 15 francs par journée, soit une progression de à peu près le tiers de l'ensemble.
D'accord. Et ça, alors, on peut dire que c'est double victoire pour les mineurs, là. Hein. Et ça, alors, ça va inciter les métallurgistes de Firminy. Alors, peut-être on peut se demander pourquoi seulement ceux de Firminy, mais à se lancer, eux aussi, dans une grève révolutionnaire.
Ben oui. Et il ne faut pas oublier qu'à Firminy, il y a Clovis Andrieux.
Bon.
Donc, il se dit, allez, c'est le moment, le gouvernement cède de tous les côtés, même s'il n'y a pas de mouvement d'ordre au niveau national, allez, les métallos de Firminy, ils se lancent. Alors, la grève, je me trompe un petit peu, il y a bien eu un mouvement national, hein, de 170 métallos à Paris qui a commencé le 2 juin. Et en fait, ce mouvement réclame mais n'obtient rien, et le mouvement parisien s'est complètement enlisé. Du côté de Firminy, la grève a commencé un jour après, le 3 juin, et ils réclament vraiment une broutille, c'est que la journée de 8 heures est bien acquise, mais il est prévu que dans la métallurgie, la pause se fasse à midi. Et Clovis Andrieux dit, oh ben mes copains syndicalistes réclament à ce qu'il n'y ait pas de pause à midi et qu'on fasse la journée d'un coup, d'un seul tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental ? En tout cas, les patrons de chez Holzer et Verdier réagissent très mal à cette demande. Et peut-être qu'ils n'attendaient que cette demande pour faire péter le point sur la table, et pour une futilité, il déclare le lock-out de l'entreprise. Et ça, Clovis Andrieux n'y était pas du tout préparé. Il ne s'était jamais imaginé que ça allait tourner comme ça. Ça se passe très mal à Firminy. Il y a un coup de revolver qui est tiré. Il y a les travailleurs immigrés des deux entreprises sont renvoyés. Et bref, tout ça, c'est une gigantesque défaite, un flop retentissant. Et Clovis Andrieux est bien obligé de reconnaître qu'il faut reprendre le travail. Il se reprend le 7 juillet. Les syndicalistes sont complètement désabusés. Ils accusent le syndicat de ne pas avoir été suffisamment conscient de ce qu'ils mettaient en jeu. Ils déchirent leurs cartes. Et on peut dire que le syndicalisme chez les métallos de Firminy va mettre beaucoup de temps pour s'en remettre.
D'accord. Et alors, d'autre part, il y a quelque chose là qui se passe très tôt après ce mouvement, c'est l'annulation d'une grève nationale interprofessionnelle qui était prévue pour le mois de juillet.
Oui. Alors, c'est quelque chose de très intéressant à analyser, ce qui s'est passé. La CGT voulait mettre en route toutes les corporations dans la grève. Ils ont considéré qu'il fallait préparer ce mouvement avec soin. Il y a eu des réunions qui se sont déroulées en mai, juin, dans toutes les fédérations. Et les travailleurs étaient tout à fait d'accord pour partir vers une grève générale. Parce que toutes les autres revendications, en dehors de la journée de 8 heures, n'avaient pas été prises en compte suffisamment. Donc, la date de la grande manifestation qui devait démarrer la grève a été choisie. C'était prévu pour le 21 juillet 1919. Et puis, brusquement, la veille, le 20 juillet, mot d'ordre parisien, on annule la grève alors que tout était prêt. Rends-toi compte, sur les platanes de la place Marengo, aux portes des usines, aux portes des mines, avait été placardée une affiche qui est une affiche qui doit faire qui est rose et qui doit faire 1 mètre sur 90 cm qui annonce cette grève. Et elle était placardée les jours précédents. Et il faut se rendre à l'évidence que tout était prêt et que la journée ne va pas avoir lieu. Alors, c'est à nouveau un très grand découragement chez les ouvriers qui n'y comprennent plus rien du tout et qui disent, mais enfin, c'est un gâchis. Il y a un ferment révolutionnaire dans le monde ouvrier. Et puis, au moment où ça va s'exaspérer, que ça va aboutir, eh bien, voilà que le mouvement national, la direction nationale nous dit qu'on arrête tout.
D'accord. Alors, on voit dans les deux exemples que tu as rapprochés, l'exemple de Firminy où la grève est déclenchée, on va dire, par un minoritaire et se termine très mal. Et puis, on voit ici, au niveau national, la majorité arrêter une grève, donc avant même qu'elle ait commencé. Ça pose question. Comment expliquer ces ratés dans ce climat de mobilisation? Comment expliquer ces ratés?
Alors, l'interprétation qui me semble la plus plausible, la plus facile à donner, c'est que on a une multiplication d'acteurs agissants, c'est-à-dire qu'il y a les fédérations différentes, oui. Et puis il y a cette lutte très forte entre majoritaires et minoritaires. Alors, quand je regarde les choses de très près, qu'est-ce que j'observe? Quand le gouvernement accorde la journée de travail de 8 heures, qu'est-ce qu'on entend? La CGT, l'organe national, la CGT, qui est accusée d'avoir pactisé avec l'ordre bourgeois.
Donc ça, on peut dire que c'est les minoritaires qui...
Bien entendu. Mais enfin, c'est rude. Que la grève générale et interprofessionnelle du 21 juillet ait été annulée. Il faut trouver la raison. Eh bien, la direction de la CGT, la direction parisienne, accuse la Fédération des mineurs d'en être responsable pour s'être lancée mi-juin, tu te souviens qu'on en a parlé, oui, de façon prématurée et de façon individuelle dans la grève. C'est rude, hein? Que les mineurs souvent soient accusés de ne penser qu'à leurs propres avantages. Et c'est vrai, ils ont obtenu beaucoup. Ça, c'est, ce sont les cheminots, ce sont les métallos qui le font, ce sont les transports, les postiers. Et qu'est-ce qu'ils en retirent, les mineurs? Ils disent, les salopards, nous accuser de tirer les marrons du feu. Bon, si c'est comme ça, la prochaine fois, on partira seul. Voilà, donc, autant dire que cette année 1919 a fragilisé l'action ouvrière.
D'accord. Alors, je fais juste un petit rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en 1919, il y a ces événements qui, dans ce climat révolutionnaire en France, fragilisent l'action ouvrière. Quand on parlait de l'Europe, il faut se rappeler aussi... Alors, il ne faut pas faire de comparaison, je crois. Il faut se méfier des comparaisons. Mais en 1919, les différents mouvements dont on a parlé tout à l'heure en Allemagne et en Hongrie ont été réprimés et... eux aussi ne se sont pas transformés en vagues révolutionnaires après une répression parfois très très dure, et ces mouvements sont stoppés en gros en août 1919. Mis à part la Russie, il n'y a plus de mouvement révolutionnaire en Europe, même s'il peut y avoir encore un climat révolutionnaire dans certains pays. Et maintenant on va passer à l'année 1920, avec à nouveau des grèves et peut-être un effroi d'une partie de la population face à ces grèves.
Oui, et avec l'entrée en compte d'une corporation dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est celle des cheminots. Alors, est-ce que cette corporation des cheminots a traversé la guerre d'une façon plus facile que les autres corporations? Très certainement. Parce que pendant toute la guerre, on a gardé la nécessité d'assurer les transports. Et donc, leur syndicalisme ne s'est pas affaibli. Souvent, ces cheminots, quand ils ont été mobilisés, ont été mobilisés à leur poste. Ils faisaient leur travail civique. Et les syndicats n'ont pas été désorganisés. Mieux même, il y avait deux syndicats cheminots avant-guerre, et ils se sont, fin janvier 1917, réunis, ils ont fusionné, et désormais on a un syndicat cheminot de 400 000 adhérents, énorme. Il s'agit de la fédération qui pèse le plus lourdement à l'intérieur de la CGT, pour à peu près un tiers des effectifs globaux de la centrale.
D'accord. Et alors, là, donc, il va y avoir ce syndicat, cette fédération très forte. Il va y avoir une grève qui se déclenche chez les cheminots en février 1920. Alors, qui lance cette grève des cheminots en février 1920?
Alors, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit l'appareil, l'état-major CGT. Ben non, ça, c'est la base. C'est la base qui s'est lancée dans la grève. Alors, pour un motif, ça arrive parfois dans les grandes grèves, pour un motif un peu futile, un peu mineur, ça a été le renvoi de 3 membres du syndicat à Villeneuve-Saint-Georges.
C'est peut-être mineur, mais c'est pas futile.
C'est pas futile, non, c'est mince comme trois personnes qui... je peux dire que dans le bassin stéphanois, des renvois d'ouvriers... Quand bien on sûr. Épluche les archives, ça se multiplie. Et alors, cet événement a été un peu pris en charge par le secrétaire de l'Union des syndicats PLM, qui s'appelle Midol, et qui était un minoritaire. Alors, Midol demande le début de la grève. La fédération des cheminots du PLM se sent obligée de suivre le mouvement. Donc le 23 février, la fédération des cheminots décide la grève. Et le 25 février propose d'étendre cette grève à l'ensemble du réseau PLM. Alors c'est pour ça que les cheminots de Saint-Étienne entrent dans la grève. Et le PLM est complètement paralysé. Et la direction, évidemment, réagit très durement. Et elle y va pas par quatre chemins. Elle révoque 300 grévistes. 300 grévistes. Voilà. Et je n'ai pas parlé du bureau fédéral CGT, parce que c'est à ce moment-là que le bureau fédéral CGT. On voit combien il y a eu des gradations dans cette grève. Elle est bien partie de la base. Eh bien, le bureau fédéral CGT est obligé de décréter la grève générale. Voilà. Alors, les négociations commencent avec les compagnies. Les compagnies, sachant qu'ils sont soutenus par le gouvernement, ils ne lâchent absolument rien. Les négociations traînent. Et, de guerre lasse, la grève est levée le 2 mars à Saint-Étienne. On est à l'identique. On arrête la grève le 2 mars. Mais on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Le mouvement s'est passé dans le calme.
Et alors, est-ce que cette grève est vraiment achevée? Parce que là, il doit y avoir un sentiment encore de défaite, de désillusion très important. Est-ce que cette grève est supprimée? Est-ce qu'il va y avoir d'autres grèves qui vont surgir après celle-ci?
Oui. Alors, le climat est très lourd. La situation est complètement pourrie. En plus, surviennent d'autres trains de sanctions vis-à-vis des militants du PLM. Micol lui-même est révoqué, pendant que, ça c'est une façon de heurter les blocs, la direction décide de doubler le salaire des cheminots qui avaient travaillé pendant la grève de février. Donc tout ça est intolérable. Et sous la poussée des syndicalistes révolutionnaires qui prennent le mouvement, qui prennent la direction du mouvement, est dessinée une grève le 1er mai 1920, qui est soutenue ensuite avec un certain décalage par la CGT, et qui annonce que les autres corporations vont rentrer dans le conflit par vagues successives jusqu'à la grève générale. Donc on a bien compris, la CGT, pour ne pas être dépassée, fait de la surenchère et prévient le gouvernement qu'au fil des semaines, les corporations rentreront dans la grève pour arriver, peut-être ici 15 jours, à la grève générale. Alors, si on regarde du côté de la Loire, chez les mineurs de la Loire, l'arrêt des puits est total tout de suite, dès le 3 mai, c'est-à-dire le même jour que les marins et les dockers, qui eux aussi rentrent dans la grève le 3 mai. Le 7 mai, c'est au tour des métallos et des gens du bâtiment d'arriver dans la grève. Et le 11 mai, au tour des électriciens et des gaziers. Jamais la France n'avait été aux prises avec un mouvement d'une telle ampleur.
Ça fait penser, tout à l'heure tu parlais des mouvements modernes et de 1968, ça fait un petit peu penser à ça. Et alors, et comment le gouvernement va faire face à cette grève?
Le gouvernement a peur et le gouvernement va dramatiser la situation pour soulever les énergies. Si tu veux, on se retrouve un petit peu dans la situation de la Première Guerre mondiale, où, pour faire face à l'Allemagne, il a fallu créer le sentiment patriotique, et là, pour faire face à la grève générale et, entre guillemets, aux communistes, on fait appel au sentiment civique. Et on parle, Mirand parle, de la bataille de la Marne civique. La bataille de la Marne civique, c'est évocateur, ça.
Oui.
Hein. Alors, sur les journaux, on voit beaucoup de choses à propos des ligues d'action civique qui se constituent sur Saint-Étienne avec d'anciens combattants, avec des groupes de volontaires qui font appel à des anciens retraités du PLM. Donc on comprend bien, hein, c'est l'ensemble des forces qui veulent que la France se remette au travail. Et on voit apparaître les élèves de l'école des mines eux-mêmes qui viennent parce qu'ils sont eux-mêmes des anciens combattants de 14. Alors, tous disent qu'ils interviennent par devoir sacré, et c'est pas banal de les voir dire que les étudiants de l'école des mines apprennent à conduire des locomotives, apprennent à utiliser le ringard. Alors, le ringard, c'est un outil qui est une grande tige métallique qui sert à remuer le coq quand on le fait brûler dans la chaudière de la machine à vapeur.
D'accord.
Sinon, ça caille, comme on disait. Et puis, ils apprennent la mécanique pour restaurer les machines qui sont en panne. Voilà. Et donc, pour reprendre ta question, ce sont ces unions civiques qui vont permettre à l'économie, certes, de mal fonctionner, de fonctionner au ralenti, mais en tout cas, qui empêche la grève d'être totalement efficace.
Et alors, donc cette grève n'est pas totalement efficace grâce à ces unions civiques, mais comment elle continue ou bien comment elle va s'arrêter? Qu'est-ce qui va se passer là?
Si les compagnies n'avaient pas faibli en février, pourquoi faibliraient-elles en mai? Donc les compagnies sont fermes sur leur prise de décision. Et la CGT voit bien que rien ne changera. Donc, la CGT convient de l'échec de la grève et en se disant qu'il vaut mieux dire qu'on s'arrête plutôt que de voir le mouvement s'effriter. Alors, le 21 mai, le comité confédéral décide la reprise du travail. Et là, c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur Saint-Étienne.
Oui. Saint-Étienne résiste.
Eh oui, à Saint-Étienne, on n'y comprend rien, toujours rien. Pourquoi cette reprise du travail alors qu'on était sûr qu'on arriverait au bout? Et les mineurs ne veulent pas en entendre parler. Bon, finalement, je crois qu'il y a dû y avoir des échanges un peu musclés. Et le 24, ils acceptent de reprendre le travail. Et au chemin de fer, alors encore moins, on ne comprend rien, mais finalement, ils reprennent le 28. Voilà.
Donc là, on a parlé de déception, de désillusion. Je suppose que le climat doit être très mauvais à ce moment-là.
Ouais. Il n'y a aucune avancée sociale possible et envisageable dans les chemins de fer. Mais toutefois, il y a quelque chose qui se passe. C'est un dépôt de projet de loi sur le nouveau régime des chemins de fer. Mais alors, autant dire que ce dépôt de loi, c'est un alibi. D'accord. J'aurais presque dit un cache-misère.
D'accord.
Et ce projet de loi, la CGT s'en empare. Parce que pour eux, c'est vraiment l'alibi dont je parlais. Parce qu'ils disent, ben voilà, on a obtenu quelque chose. Et on a pu proposer une reprise honorable. Mais réfléchissons bien, toutes les autres demandes n'ont pas été prises en compte, et notamment la question de la nationalisation. Et puis la répression a été terrible. Hein. 400 militants sont inculpés. 20 000. Alors je crois qu'il faut asséner ce chiffre. Je crois qu'on n'en a pas vraiment la mesure de cette grève. 20 000 révoqués. 20 000 cheminots qui ont perdu leur travail. C'est-à-dire 12% des grévistes.
C'est énorme. Alors, pour le coup, là, ça me fait penser à ce qui se passe en 1948 avec les grèves de 48, où il y a un nombre de révocations très important. Tu le sais mieux que tu as travaillé là-dessus.
D'accord. Oui, mais pas dans les mêmes proportions. Et c'est passé, on va déborder de notre période. En 24, le Parlement a voté une amnistie à propos de ces révoqués. Mais le Parlement peut bien voter une amnistie, il ne peut pas imposer aux compagnies des chemins de fer de réembaucher les personnes sanctionnées. Et il n'y a aucune compagnie qui n'a réembauché ceux qui avaient été sanctionnés. Voilà, je peux dire que dans la Loire, qui est un bassin têtu, l'agitation a duré très longtemps. Et il y a une nouvelle grève qui a été votée dans les mines le 15 novembre. Mais le 13, avant que l'ordre effectif soit réel, la Fédération nationale du sous-sol parisienne a dit non, 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 la Loire, arrêtez de semer le trouble. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette grève. Donc même cette grève n'a pas eu lieu. Et on peut dire que l'ère quasi-révolutionnaire qui a été connue en 1920 est close dans la Loire jusqu'au Front populaire.
D'accord. Et donc du coup, le mouvement syndical qui avait progressé énormément va se trouver très désorganisé et puis il va se produire une évolution de ce mouvement syndical.
Ah oui, ce qui se passe est très lourd de conséquences. Dans un premier temps, le gouvernement a tenté d'obtenir la dissolution de la centrale syndicale CGT en intentant un procès en justice contre la CGT. Alors ça a été plaidé devant le tribunal de la Seine et le gouvernement a obtenu gain de cause, mais la décision n'a pas été appliquée.
D'accord.
Mais on a beaucoup commenté cet événement et dans les journaux et parmi le monde ouvrier. Et l'alerte a tellement été chaude dans la Loire que les syndicats ont pris peur et que la moitié des syndiqués ont quitté les rangs de la CGT dans la Loire.
Mmh.
Et puis, ça se passe mal à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. À la Bourse du Travail, le mouvement syndicaliste va sortir complètement décapité et on cherche les responsables de ce qui s'est passé.
Mmh.
Alors, on parle beaucoup, on dit que c'est la cause du ministre des Travaux Publics, parce que ce ministre aurait en sous-main organisé les grèves pour pratiquer la politique du pire et ensuite tomber sur les syndicalistes. Bon, peut-être, je ne peux pas le dire. Ils s'en prennent à Bartuel, le secrétaire de la Fédération du sous-sol, qui est une fraction majoritaire. Et on s'en prend aux leaders locaux de la fraction majoritaire de la Fédération du sous-sol, tels que Chauvet, et au secrétaire du syndicat des cheminots. Mmh. Et puis à tous les échelons du syndicat, de l'Union départementale et de la Bourse de travail, grandit l'influence des minoritaires à Saint-Étienne.
Ce qui va se traduire au niveau général par la création à cette époque-là de la CGTU face à la CGT.
Oui. Et oui, parce que c'est une autre conséquence de ces années 19 et 20. Les conflits n'ont fait qu'approfondir le fossé entre les minoritaires de Saint-Étienne et l'appareil confédéral. Alors, il faut prendre en compte, bien entendu, le congrès de Tours, en fin décembre 1920, avec la partition SFIO, section française de l'Internationale communiste. Et cela fait que fin 1921, donc au bout d'un an, sans surprise, 39 syndicats ouvriers de la Loire sur 42 souhaitent organiser une nouvelle organisation ouvrière qui, cette fois, sera affiliée à l'international rouge.
Mmh.
Et ce qui est très significatif, c'est que c'est à Saint-Étienne qu'a lieu le premier congrès de la CGTU, le 25 juin 1922.
La misère, nous sommes de force des révoltés. Nous vengerons nos mères que des brigands ont exploitées. Nous ne voulons plus de famine. À qui travaille, il faut du pain. Demain, nous prendrons les usines. Nous sommes des hommes et non des chiens. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. La jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. prenez garde, prenez garde, la lâche garde. Nous ne voulons plus de guerre, car nous aimons l'humanité. Tous les hommes sont nos frères, nous clamons la fraternité. La République universelle, empereurs et rois, tous au tombeau. Tant pis si la lutte est cruelle, après la pluie, le temps est beau. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gabis. Là la jeune garde, là la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, là la jeune garde.
Je crois qu'il est bon de sortir cette chanson des archives, parce que vous qui nous avez entendus, vous avez dit « oui, bah, ce sont des propos d'historiens ». Ben non, ce ne sont pas des propos d'historiens, pas seulement. Et peut-être bien que les propos de l'époque sont encore beaucoup plus violents qu'on a voulu vous le dire. Dans cette chanson, qui est une chanson dont les paroles sont de Montéus et la musique de Saint-Gilles, qui a été composée, alors vraisemblablement, avant le congrès de Tours, on y voit l'accumulation de tout ce qui a été agité pendant ces deux années 1919-1920. Et en définitive, même si on a dit que le ressort était cassé, ah bah non, dans la chanson, le ressort n'est pas cassé.
Merci Maurice et Jean-Paul pour cette émission du mois. Simplement, peut-être quelques petites infos. Agenda, actu, Grémos, ou en lien, étroitement associé. Parlons de Trace, le Forum régional des mémoires d'immigrés, pour exemple, qui va se boucler début décembre prochain, qui a commencé le 2 novembre. Il va se terminer le 9 décembre. On en a largement parlé sur cette antenne avec la première émission de la saison du Grémos qui était consacrée à ce Forum 2016. Vous avez dit crise des migrants, figure d'hier et d'aujourd'hui en est la thématique principale. C'est un forum qui se décline en films, expos, débats, théâtres, conférences et autres visites. Vous avez toutes les infos en ligne sur internet via les www.trace-immigration.org. Je rappelle que les émissions du Grémos et toutes les infos en lien avec l'association sont également disponibles sur le site dédié du Grémos. Ce sont les www.grémos.l'autre.net. Simplement, petit détail et précision technique, les podcasts des émissions sont à retrouver habituellement sur votre site internet et exceptionnellement pour la dernière en date et donc la première de cette saison, celle concernant Trace, est en ligne et en podcast sur le site de Dio, www.radiodio.org. C'est l'occasion de retrouver la présentation de cette biennale Trace 2016 qui propose de multiples rendez-vous dans la région Rhône-Alpes, Auvergne aujourd'hui, et notamment dans la Loire. Le programme est chargé. Il se tient pour exemple aujourd'hui même et demain, cette fin de semaine, deux rendez-vous autour de musique et migration avec le projet que mène le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes et le laboratoire CIREC de l'Université Jean Monnet. Ça se passe aujourd'hui à l'université avec la question de la polyphonie et un film albanais qui est d'ailleurs en projection sous la houlette et la discussion de l'auteur Eckehard Pistrick de l'université de Halle en Allemagne. Il sera également demain pour une conférence sur musique et migration. Rappelons encore le projet des Cafés Cosmopolites mené à Saint-Étienne avec la sociologue Catherine Gauthier, membre du Grémos, dont on a largement parlé sur cette antenne, qui a un pendant au-delà du film, qui sera présenté le 25 novembre prochain d'ailleurs au Chambon-Feugerolles, un pendant exposition image avec le travail photographique de Sandrine Binoux. C'est une expo qui est visible à partir de demain jusqu'au 8 décembre au Chambon-Feugerolles, également au Centre Social Créactif. Bref, j'ai donné toutes les infos pour le site internet et avoir davantage la programmation en détail. Simple petite info peut-être à rappeler, c'est également une actualité toujours en image et en cinéma avec actuellement un festival festival du cinéma solidaire qui se déroule sur le parc du Pilat voisin. Ça a commencé le 2 novembre et ça va se terminer le 3 décembre prochain. 7 ciné-rencontres, 7 cinémas du Pilat qui sont force de proposition finalement autour d'une thématique qui est le travail, solidarité au travail. C'est la thématique de ce festival finalement, ciné solidaire du Pilat 2016. Et il y a de très très beaux films à l'affiche sur les questions du travail, des luttes sociales et autres. Je vous laisse également consulter le site du parc naturel du Pilat pour avoir cette programmation du festival Ciné Solidaire, mais simplement vous dire qu'il y aura par exemple le 29 novembre prochain le dernier film de Gilles Perret autour de la sécurité sociale dont on fête les 70 ans. C'est un film qui sera à l'affiche du ciné Molette de Saint-Julien-Molin-Molette avec une discussion débat en présence du réalisateur. C'est un réalisateur qui avait réalisé de nombreux films sur Walter Retour en résistance par exemple, et la résistance bien sûr durant la Seconde Guerre. Tout un travail aussi, un film documentaire sur le CNR, le Conseil National de la Résistance, avec le film Les Jours Heureux, et qui revient avec ce film documentaire là, La Sociale, Vive la Sécu. C'est plutôt bienvenu aussi pour évoquer les 70 ans de cette instance finalement, histoire de la sécu, le trou de la sécu dont on parle beaucoup, qui est peut-être aussi un trou mémoriel pour faire le lien avec le Grémos. Et puis d'autres infos à retrouver sur le site du Grémos très rapidement, et ça vous en avez aussi parlé hors antenne, c'est la venue de Michel Zancarini-Fournel autour de son dernier ouvrage Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, paru aux éditions La Découverte, qui paraît actuellement aux éditions La Découverte, et qui va assurer une petite tournée de présentation de cet ouvrage. Et notamment, ce sera quasi la première, ce sera à Saint-Étienne, ce sera le 2 décembre prochain à la librairie L'une et l'autre à Saint-Étienne. Ne manquez pas le rendez-vous, et d'autres encore à retrouver sur le site du Grémos. On se retrouve le mois prochain avec Jean-Paul à nouveau pour une nouvelle émission sur quelle thématique, pour histoire de donner un avant-goût.
Jean-Paul et Albo Graziotin, et ça sera sur la CGT. En janvier, sur la crise de la CGT dans les années 1970.
Voilà, donc ça sera le menu du prochain numéro Grémos, troisième émission de cette saison. Ça sera le troisième jeudi du mois de décembre. Et puis on se retrouvera bien sûr, puisque fin d'année arrive, c'est déjà l'occasion d'annoncer le début d'année 2017 avec cette journée d'études et les rencontres ouvrières que vous proposez habituellement chaque automne, et qui là est déplacée, décalée quelque peu en début d'année 2017. Merci à vous, bonne fin de journée, à très bientôt.
Merci, à toi. Au revoir.
Au revoir.